Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode de Léviathan, nous allons aborder trois questions qui ont beaucoup été présentes dans les infos ces dernières semaines, du moins deux d'entre elles. Océane va donc vous expliquer la situation autour de l'offensive turque en Syrie. De mon côté, j'expliquerai ce qui s'est passé au Pérou en fin de mois de septembre, début de mois d'octobre. Et enfin, nous analyserons ensemble les dernières élections en Tunisie. Pour notre invité du mois, nous accueillons Anaïs Pellegrino, qui détient un master en francophonie et relations internationales, et qui va nous parler de la place de la femme dans les relations internationales et la défense. Vous en avez forcément entendu parler, les Turcs sont passés à l'offensive en Syrie. Tous les jours, nous apprenons de nouvelles informations sur la situation. Alors Océane, tu ne vas pas nous raconter tous les détails de l'offensive, mais tu voulais revenir sur quelques points clés pour comprendre la situation dans son ensemble.
Oui Carolina, exactement. La guerre en Syrie, qui a commencé comme une guerre civile, dure depuis mars 2011. On se souvient plus généralement de 2014 parce que c'est l'année de l'apparition de ce nouvel acteur, l'État islamique, qui transforme cette guerre civile en guerre tout simplement, impliquant de nombreux pays. Ça fait donc presque 8 ans que ce pays est en guerre et que la population civile en souffre. Je sais que la plupart d'entre nous connaissons les dates, mais est-ce qu'on a vraiment bien conscience de la durée du conflit? 8 ans, c'est énorme. Les pays frontaliers ont été très rapidement impliqués dans le conflit syrien, que ce soit en soutien à Bachar al-Assad, en soutien des forces rebelles kurdes ou tout simplement en guerre contre Daesh. La Turquie est impliquée depuis le début dans ce conflit, en premier lieu par le financement de groupes armés, vous vous souvenez peut-être de l'ASL, l'armée syrienne libre, puis par intervention directe sur le sol syrien depuis 2016. Je vais donc essayer de vous retracer l'histoire complexe de la Turquie et de la Syrie, et de manière générale, des pays qui sont impliqués dans la guerre en Syrie, des relations avec la Turquie. Bon, ça va être un petit peu compliqué, j'espère que je vais rendre ça simple.
Justement, comme tu l'as évoqué, la Syrie et la Turquie ont une histoire complexe. Ces deux pays qui sont souvent retrouvés en pleine confrontation.
Oui, alors, sans vous refaire toute l'histoire des relations turco-syriennes, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous trouverez deux références plutôt sympas en biblio. Les relations entre la Turquie et la Syrie n'ont pas été de tout repos. Après des années et des années de confrontations sur, par exemple, la crise de Suez en 1956, la crise jordanienne de 1957 qui s'est transformée en crise turco-syrienne, les relations israélo-palestiniennes, les frictions aux frontières entre Turquie et Syrie, mais surtout la question kurde, la crise entre Turquie et Syrie atteint des sommets en 1998. Et c'est pourquoi les deux pays ont négocié l'accord d'Adana, signé le 20 octobre 1998, ce qui a marqué l'ouverture d'une coopération intense entre les deux pays et la fin du soutien direct ou indirect de la Syrie au PKK, donc le parti kurde turc qui est reconnu comme une... enfin qui est reconnu, qui est considéré par la Turquie comme une organisation terroriste. Donc cette relation turco-syrienne s'est construite tout d'abord sur des enjeux sécuritaires, et elle s'est consolidée par des visites diplomatiques de plus en plus régulières, une coopération économique de plus en plus marquée. L'arrivée de Bachar el-Assad au pouvoir, la guerre en Irak et la procédure d'inclusion de la Turquie à l'Union européenne ont rapproché les deux pays. D'ailleurs, la période 2002-2010 est parfois qualifiée comme la lune de miel entre Syrie et Turquie. Mais depuis le début des années 2000, la situation a beaucoup changé. Alors, quand la révolution syrienne commence en 2011, la Turquie tente de convaincre son dirigeant, donc Bachar el-Assad, de négocier pacifiquement avec les insurgés. Le gouvernement de Bachar el-Assad, ignorant les conseils de la Turquie, les relations entre les deux pays deviennent de plus en plus tendues, d'autant plus que la Turquie a, depuis les années 2000, beaucoup d'intérêts économiques en Syrie, et les pertes financières se multiplient avec la prolongation du conflit. Quelques mois après le début de la guerre civile, la Turquie rompt ses liens avec le gouvernement syrien et commence à apporter un soutien financier à l'armée syrienne libre.
Donc, retournement d'alliance totale.
Oui, alors, en quelque sorte, parce que la Turquie est peu hostile à l'ensemble des groupes et factions se battant en Syrie, même Daesh dans un premier temps, mais elle est surtout préoccupée par la possibilité de la création d'un Kurdistan syrien autonome. C'est une préoccupation qui est bien ancienne de la Turquie, et ça avait été d'ailleurs l'objet de crise entre Turquie et Syrie. Donc la Turquie a certes fait un retournement d'alliance, mais finalement son sujet d'inquiétude principal est resté le même. Ayant une forte population kurde à la frontière, qui entretient des ambitions indépendantistes depuis des années à travers du PKK, une indépendance kurde en Syrie pourrait entraîner une révolution des Kurdes en Turquie. Alors néanmoins, en 2013, donc 2 ans après le début du conflit, un cessez-le-feu a été conclu entre la Turquie et le PKK, et d'ailleurs c'est le moment où la Turquie s'engage dans la coalition internationale, 1 an plus tard. En 2015, le conflit reprend et la Turquie subit des attentats revendiqués à la fois par l'État islamique et par des rebelles kurdes. La question kurde est clairement au centre des préoccupations de la Turquie et on ne peut pas comprendre son action en Syrie et ses prises de position internationales sans avoir conscience du problème kurde en Turquie, aussi en Syrie, mais surtout en Turquie.
Mais la Turquie avait déjà combattu en Syrie. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup plus de cette action maintenant ?
Alors c'est vrai, la Turquie a déjà mené plusieurs offensives sur le territoire syrien, mais toujours sous une sorte de contrôle américain. Et c'est la grande différence avec ce qui se passe aujourd'hui parce que les forces américaines ont commencé à se retirer de la frontière turco-syrienne. Sur autorisation de Donald Trump, Erdogan a annoncé une incursion militaire qui n'est pas soutenue mais qui n'est pas non plus arrêtée par les États-Unis. La décision de Donald Trump ne semble pas être au diapason des recommandations du Pentagone, et encore une fois, ses tweets ont été à la hauteur de sa réputation. Je vous cite « Si la Turquie fait quoi que ce soit dont j'estime, dans ma grande et inégalable sagesse, que cela dépasse les bornes, je détruirai et anéantirai complètement l'économie de la Turquie. » Bon, je vais pas commenter ce tweet, parce qu'il a déjà été passé au crible par les politiques et les médias, mais je pouvais pas ne pas vous le traduire et vous le citer. Donc les États-Unis ont bien cette position de « on ne va pas l'empêcher de faire, mais attention de ne pas aller trop loin ». Pourtant, les États-Unis n'ont pas quitté le sol syrien, il reste encore des forces sur place. Mais les rebelles kurdes qui ont été soutenus par les États-Unis et qui ont été le fer de lance dans le combat contre Daesh, ils se sentent trahis aujourd'hui. Cette décision a d'ailleurs soulevé une vague de protestations à l'intérieur même des États-Unis et qui n'est pas suivie par ses propres alliés. La France a publiquement condamné l'offensive turque et le président Emmanuel Macron a annoncé suspendre les ventes de matériel de guerre qui pourraient servir à cette offensive, après des annonces extrêmement similaires des gouvernements néerlandais et allemands. L'ONU de son côté a déclaré, je cite, « s'attendre au pire ». L'Europe tentait d'ailleurs, le vendredi 11 octobre, de faire condamner l'offensive turque par les Nations Unies, mais elle s'est confrontée à l'opposition russe et américaine. Depuis son annonce choc, Donald Trump a suggéré une médiation entre les Turcs et les Kurdes, notamment vu les réactions internationales, et certains membres de la Maison-Blanche travaillent sur la possibilité d'un cessez-le-feu. Mais Trump déclarait encore une fois jeudi sa volonté de retirer les troupes américaines de Syrie et d'arrêter ces guerres insensées, je cite « La dernière chose que je souhaite, c'est de ramener des milliers et des milliers de soldats là-bas pour battre tout le monde à nouveau ». Ça, nous l'avons déjà fait, et donc il a déclaré ça avant d'insister sur le fait que le groupe État islamique avait bien été battu, définitivement et à plate couture. Ce qui pourrait potentiellement changer les choses dans la posture américaine, c'est que il semblerait que des soldats et des positions américaines aient été prises entre deux feux, donc kurdes et turcs, récemment. Mais bon, les déclarations étaient un peu confuses, donc jusque-là, je ne vais pas particulièrement me prononcer. Voilà globalement la position des États-Unis, et c'est bien cette position des États-Unis qui a déclenché l'offensive turque, même si les Turcs poussaient pour cela depuis des semaines.
Et du coup, que veulent les Turcs ?
Alors, les Turcs souhaitent créer une zone de sécurité en Syrie, alors officiellement pour permettre le retour 1 million de Syriens actuellement en Turquie, dans leur pays d'origine, de manière un peu moins officielle, de repousser le YPG, donc qui est le groupement proche du PKK, donc de Kurdes, et qui ont été le fer de lance dans la guerre contre l'État islamique. Il faut savoir que la Turquie accueille en ce moment plusieurs millions, donc à minima 2 millions de réfugiés syriens sur son territoire, et un accord avec l'Union européenne pour limiter leurs déplacements vers le vieux continent. La question des réfugiés est centrale dans les relations turco-européennes. Pour la création de cette espèce de zone de sécurité pour pouvoir rapatrier donc, les Syriens chez eux, en août dernier, les Kurdes, les Turcs et les Américains avaient annoncé un accord établissant cette zone de sécurité justement pour séparer les secteurs kurdes syriens de la Turquie, en les éloignant de la frontière, dans le but de dissuader la Turquie de lancer l'offensive qu'elle a justement lancée très récemment. Mais le calendrier, cet accord est resté flou et ça n'a pas du tout permis d'éviter l'offensive turque.
Et quels sont les derniers développements de l'offensive turque ?
Alors, tout va très vite. Je vais donc vous livrer les détails dont nous avons connaissance à l'heure où nous enregistrons, mais ils seront probablement obsolètes au moment où vous nous écouterez. Donc je vais aller assez vite, quitte à y revenir pour une prochaine actualité de manière un peu plus précise. La Turquie a annoncé avoir pénétré et contrôlé Tal Abyad et Ras al-Ain, et maintenant Minbey, une ancienne place forte kurde. Les Turcs auraient reçu une assistance des Russes. Et d'ailleurs, depuis la prise de position de Donald Trump, ces changements de discours, ces changements de ton assez nombreux depuis le début de la crise, bien les Turcs ont pris une place de plus en plus importante. C'est avec les Russes que les Turcs veulent discuter, beaucoup moins avec les États-Unis ou de manière générale les Occidentaux. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter que Londres et Ottawa ont aussi levé leur commerce d'armes avec la Turquie pendant que les États-Unis réfléchissent à des sanctions pour une situation qu'ils ont quand même largement contribué à déclencher. Alors quant au nombre de morts, ben c'est pareil, tous les jours on en ajoute, donc les chiffres que je pourrais vous donner aujourd'hui seront complètement obsolètes demain. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation humanitaire est critique. De nombreuses ONG quittent le nord de la Syrie car les volontaires ne sont plus en sécurité. Médecins sans frontières, Mercy Corps, la plupart des aides humanitaires dans la zone encore contrôlée par les Kurdes. Certains restent encore au jour où j'enregistre ces mots, donc le 17 octobre, mais la situation peut encore beaucoup changer. Depuis le début de la guerre civile syrienne, il y a eu plus de 370 000 morts. Et pour les premiers jours de l'offensive turque, selon les chiffres, on dirait plus ou moins une centaine, dont pas mal de civils. La question humanitaire en Syrie est dramatique, et je pèse mes mots. Je ne sais pas si on s'en rend compte ce que ça fait 370 000 morts. Ça représente tous les habitants de la ville, de l'île et de camps réunis, tous tués en moins de 8 ans.
Ce qui est assez impressionnant, pas dans un bon sens. Mais sinon, globalement, la Turquie n'est pas critiquée que pour sa relation avec les Kurdes et la Syrie.
Non, alors il y a un problème turc bien plus large que cette dernière offensive, même si elle a fait la une des journaux. Tout cela ne peut pas se concevoir sans la prise en compte du virage autoritaire de la Turquie depuis la tentative du coup d'État du 15 juillet 2016, qui avait fait plus de 250 morts. Ça fait déjà 3 ans qu'il y a eu cette tentative de coup d'État en Turquie. Et après donc le putsch, il y avait une purge énorme parmi les militaires, mais aussi les professeurs, on en avait beaucoup entendu parler. Bien qu'il y ait un durcissement qualifié par les médias d'antidémocratique, avec de nombreux emprisonnements, beaucoup de limogeages, Erdogan avait été réélu démocratiquement en 2018, bien qu'il existe des contestations sur le trucage ou non des élections. Mais en mars dernier, donc en mars 2019, pour la première fois, eh bien les élections municipales font perdre l'AKP, donc le parti politique présidentiel, à Ankara et Istanbul. Erdogan a donc décidé tout simplement d'annuler le scrutin pour Istanbul parce qu'il ne pouvait pas perdre. C'est vraiment une des premières, fois que le président va jusque-là en fait, décide d'annuler des élections. C'est vraiment complètement antidémocratique. Et d'ailleurs, cette politique embrassée par Erdogan a éloigné ses alliés. Le temps où on pensait sérieusement à l'inclusion de la Turquie dans l'Union européenne est passé, largement passé, et la procédure est gelée. L'OTAN émet de sérieuses réserves, surtout depuis que les Turcs ont signé un contrat majeur avec la Russie pour l'achat de systèmes de défense antiaérienne S-400, et aussi parce que le traitement réservé aux Kurdes par les Turcs ne fait pas, excusez-moi l'expression, l'unanimité. L'OTAN ne considère pas retirer la capacité de membre à la Turquie, en raison notamment de son importance géopolitique. C'est un pivot pour se protéger et de la Russie et du Moyen-Orient. Mais il y a de plus en plus de doutes qui se font entendre par les médias, par les politiques, sur la cohérence de son régime politique avec les valeurs défendues par l'OTAN, qui sont notamment des valeurs démocratiques. Mais bon, le fait qu'il y ait des armes nucléaires de l'OTAN qui soient stationnées en Turquie, donc des B-61 pour être précise, bien qu'ils soient gardés par les Américains, C'est pas rassurant pour les alliés. Puis les dernières déclarations d'Erdogan sur son droit à posséder des armes nucléaires, alors même qu'il a signé le TNP, tout ça, ça crée un climat assez anxiogène. Donc pour résumer, les réserves de l'Europe et un peu des États-Unis vis-à-vis de la Turquie ne se limitent pas à leurs intentions et leurs actions militaires en Syrie, même si c'est ce qui fait la une des journaux. Donc il faut bien prendre ça en compte, et je vous conseille de suivre les avancées turques en Syrie, parce que ça pourra vraiment avoir un impact sur la population kurde et le peuple kurde.
Merci beaucoup, Océane, pour cette vue d'ensemble concise et précise sur la situation. Ce n'est pas un sujet facile à comprendre ou à résumer, d'ailleurs. Nous allons maintenant passer à un autre sujet aussi assez complexe, la situation politique au Pérou. Avez-vous entendu parler du Pérou ce mois-ci ou fin de mois de septembre ?
Alors oui, il me semble avoir vu passer des infos, mais elles sont parties des unes des journaux aussi vite qu'elles étaient arrivées. Mais la situation politique du pays est assez délicate.
Exactement, comme toi, j'ai vu plein de breaking news le 30 septembre sur le Pérou et ensuite silence radio. Donc je me suis demandé ce qui s'était passé, sachant que le jour même où ça s'est passé, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus, et c'est la raison pour laquelle je vais vous en parler aujourd'hui. Alors j'imagine que comme nous, ce que vous ayez vu ou entendu parler avait un rapport avec le fait que le président ait dissous l'Assemblée, ce qui lui a valu d'être suspendu par des législateurs de l'opposition pendant 12 mois. Ou du moins, c'est ce qu'ils avaient prévu. Bon, comme d'habitude, remettons les choses dans leur contexte, parce que sinon j'ai beau vous parler des événements actuels, ça n'aura aucun sens si jamais on ne connaît pas un minimum la situation du pays. Sauf que, comme d'habitude, c'est difficile de résumer l'histoire d'un pays, notamment l'histoire politique, en si peu de temps, donc je vais faire de mon mieux. Pour ce faire, je vais commencer par ce que les Péruviens appellent l'auto-coup d'État qui a eu lieu en 1992.
Un auto-coup d'État, c'est un concept plutôt intéressant. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, en effet, j'en avais jamais entendu parler. Mais ça s'appelle un auto-coup parce que c'est Alberto Fujimori, qui était alors président, qui l'a fait en annonçant le 5 avril qu'il dissolvait l'Assemblée et qu'il allait réorganiser la branche judiciaire. Donc c'était plutôt inquiétant. Il a également envoyé la police chez ses plus grands opposants politiques le même soir. Et il a par la suite suspendu une partie de la Constitution, notamment à travers un état d'urgence et des couvre-feux. La raison pour laquelle il a fait tout ça, c'est parce que l'Assemblée était détenue majoritairement par son opposition et toute initiative législative était bloquée. Je ne suis pas en train de l'excuser, juste en train d'expliquer ses raisons. Bref, l'année suivante, ses supporters ont été majoritaires à l'Assemblée, après des élections. Un de ces grands partis d'opposition était dissous et le leader de l'autre était exilé. Avec un référendum, une nouvelle constitution était en place, sachant que cela s'est voté à moins de 5% de marge majoritaire. Alberto Fujimori est resté président du Pérou jusqu'en 2000, ce qui était son troisième mandat. Il a pu faire un troisième mandat, même s'ils étaient limités à deux mandats, grâce à ses supporters à l'Assemblée et à son soutien par le peuple. Mais il n'est pas resté jusqu'au bout de celui-ci, parce qu'il s'est enfui, au Japon, à cause de scandales de corruption et de non-respect de droits humains. Je ne vais pas vraiment rentrer dans des détails, mais en gros, c'était en rapport avec des stérilisations en masse de populations rurales pauvres.
Oh.
Donc, super. Bref, plus tard, il a été condamné pour crime contre l'humanité pour avoir fait tuer 25 personnes, des journalistes et personnes d'affaires.
Oui, une personnalité encore très charmante. Et du coup, depuis 2000, qu'est-ce qui s'est passé au Pérou ?
Il semblerait que globalement, le Pérou ait vécu une période de paix après les années 2000, avec Alberto Fujimori parti et d'autres problèmes internes au pays, tels que la présence d'un groupe armé, ayant été résolus. L'économie se portait bien et comparé à certains voisins, c'est un pays qui s'en sortait plutôt bien de façon générale. Sauf que, en 2016, un énorme scandale de corruption a émergé dans le pays. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la compagnie brésilienne Odebrecht, mais pour faire simple, c'était les principaux constructeurs des infrastructures de façon générale au Pérou. Il s'avère que la compagnie a sous-payé des officiels partout en Amérique latine, et donc y inclus au Pérou, dont notamment des présidents, mais pas que. Ce scandale a marqué une première fracture dans la politique péruvienne. Une autre est survenue lorsque de nouveaux scandales ont émergé, cette fois entre la famille Fujimori et Pablo Kuczynski, je le prononce sûrement très mal, qui était le dernier président élu au Pérou. Que s'est-il passé? La fille d'Alberto Fujimori, appelée Keiko Fujimori, a voulu bâtir sur l'héritage de son père en créant un parti qui serait plutôt populiste.
C'est donc l'histoire qui se répète.
Oui, à première vue, ça rappelle clairement des situations plus proches de nous que nous connaissons. Et du coup, ce qui s'est passé avec Pablo Kuczynski, c'est qu'il a annoncé qu'il contrôlait une entreprise et en fait des affaires avec Odebrecht, ce qui a poussé Keiko Fujimori et son parti à le menacer de destitution, le conduisant donc à pardonner Papa Fujimori. Voilà. Bon. Les gens n'ont pas trouvé ça très drôle et en fait la Cour suprême n'a pas laissé ça passer et l'a renvoyé en prison. Un peu difficile de se faire pardonner pour des crimes contre l'humanité. Bref, après ça, ce même président a eu d'autres scandales, notamment en essayant de soudoyer des membres de l'opposition afin d'avoir leur soutien législatif. Donc voilà, avec tous ces scandales, il a fini par décider de démissionner pour des raisons plutôt évidentes.
Oui, la corruption, malheureusement, c'est un fléau assez récurrent en Amérique latine, on a pu le voir au cours de cette année. Et donc, c'est sa démission qui a déclenché la crise actuelle?
Plus ou moins. Avec sa démission, c'est son vice-président, Martin Vizcarra, qui est devenu président. Il a voulu se lancer dans une grande lutte d'anticorruption, ce qui ne passait pas très bien avec le Partido Popular, ce qui est le parti de Madame Keiko Fujimori, et qui est sa principale adversaire, mais qui est aussi en prison pour des questions de corruption. Oui, ça commence à devenir confus, j'en suis bien d'accord. Ce n'était pas l'actualité du mois la plus simple à préparer. En fait, son parti, à Keiko Fujimori, bloquait également toutes les réformes qu'il essayait de mettre en place, et donc pendant tout ce temps, il a menacé de dissoudre le Congrès. Ce qu'il a donc enfin fait le 30 septembre, quand vous avez vu tous ces breaking news.
D'accord, donc enfin on en arrive là. Alors, je me demande quand même quelle est la taille des prisons au Pérou, si tous leurs hommes politiques y sont. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis le 30 septembre? Parce qu'on n'a plus de nouvelles en fait sur les médias traditionnels français.
Alors, l'opposition a directement considéré ça comme inconstitutionnel et ils ont déclaré que ce serait Mercedes Araoz, qui est la vice-présidente, qui serait présidente par intérim, en essayant donc de destituer Vizcarra. Sauf que la vice-présidente a démissionné après avoir vu que les forces de l'ordre soutenaient le président Vizcarra. Et à savoir que l'objectif de ce président est qu'il y ait de nouvelles élections afin que la majorité change peut-être dans l'Assemblée et qu'il n'y ait plus tous ces blocages par rapport à toutes ces initiatives législatives. Il semblerait d'ailleurs que son taux d'approbation par la population soit passé de 52% à 82%, ce qui est assez incroyable. Ça rappelle aussi ce qui s'était passé il y a quelques années avec Alberto Fujimori. En 1992, donc, et on sait comment les choses ont évolué après ça. Mais c'est intéressant à noter ce soutien de la population, et c'est possible que ce soit dû à un ras-le-bol général des affaires de corruption les unes après les autres, et de la position très anticorruption qu'adopte le président Vizcarra. Parce qu'après tout, selon un sondage réalisé en 2018, le taux d'approbation des législateurs péruviens n'était qu'à 8% par leur population. C'est assez fou. En réalité, des milliers de personnes sont sorties dans les rues le 30 septembre afin de fêter la dissolution du Congrès. Alors le 3 octobre, il a créé un nouveau gouvernement avec des nouveaux ministres et des élections législatives sont prévues pour janvier 2020. En attendant que celle-ci ait lieu, il a pour objectif de légiférer à travers des décrets. Nous verrons donc comment vont évoluer les choses d'ici janvier, notamment après les élections. La première chose que la plupart des analystes qui sont penchés sur le sujet ont remarqué, c'était le parallélisme avec Fujimori que je viens d'évoquer, et surtout le besoin pour le peuple péruvien d'avoir une figure forte qui prenne les choses en main. Cependant, non seulement le contexte, mais aussi le cadre dans lequel ça a été fait sont bien différents de ce qui s'était passé dans les années 90, ce qui semble montrer la volonté du peuple de, oui, voir une figure forte qui prend les choses en main, mais aussi de les guider dans un autre sens.
Effectivement, c'est une situation extrêmement compliquée au Pérou. Ça rappelle la situation dont tu nous avais parlé il y a quelques mois sur le Venezuela. Bien que deux pays et deux situations très différentes, pour l'instant, ça reste une zone assez compliquée. Donc on y reviendra après les élections, comme tu le disais Carolina, en espérant pour le Pérou que la situation va se stabiliser. Et nous allons repartir dans une autre région du monde pour notre dernière actualité. Nous allons vous parler de la Tunisie et, encore une fois, des questions d'élections.
Pour notre dernière actualité, nous avons décidé de parler des élections tunisiennes. Mais comme à notre habitude, nous allons revenir un peu en arrière avant de vous parler de la journée du 13 octobre.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Tunisie est un pays relativement jeune. Son indépendance de la France ne date que du 20 mars 1956, après 75 ans de protectorat. Cette indépendance a un visage en Turquie, celui de Bourguiba, qui fut élu président dès l'accession à l'indépendance du pays. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous faire toute l'histoire politique de la Tunisie, qui est pourtant passionnante, notamment en ce qui concerne la politique de modernisation du pays dans les années 50 et 60. Mais nous allons aujourd'hui revenir sur des grands événements politiques du pays depuis 1989. Donc c'est l'année de la première élection de Zine El Abidine Ben Ali, élu avec plus de 99% des voix. Il est réélu en 1994 avec 99,9% des voix, puis en 1999 avec 99,4% des suffrages. En mai 2002, un référendum constitutionnel est adopté par 95,5% des électeurs et il autorise un nombre illimité de candidatures à la présidence de la République, ce qui permet à Ben Ali de remporter l'élection de 2004 avec cette fois-ci non pas 99% des voix, mais 94,4%. Bon, ça paraît assez évident au vu des taux et des pourcentages que je vous donne, mais Ben Ali relève bien plus du dictateur que du président, et les contestations politiques sont parfois durement réprimées au sein de ce régime. Bon, et devinez qui a été élu en octobre 2009 avec 89% des voix ? Eh oui, Zine El Abidine Ben Ali, c'est bien lui. Mais en janvier 2011, la vie politique tunisienne change drastiquement. C'est l'époque des printemps arabes. Le 13 janvier, après la généralisation de la contestation sociale et politique dans le pays, le président Ben Ali annonce des mesures pour libéraliser le pays et s'engage à ne pas se représenter en 2014. Le lendemain, il quitte le pays et se réfugie en Arabie Saoudite. Dans un rapport fait en 2014, la Banque mondiale a montré qu'à la fin des années 2010, le clan Ben Ali contrôlait 220 entreprises représentant 233 millions de dollars. Après l'exil de Ben Ali, de nombreux biens de son entourage et de lui-même avaient été confisqués et redistribués à l'État, même si l'État n'a pas tout récupéré encore aujourd'hui. Condamné à plusieurs reprises, notamment pour la répression sanglante des manifestants qui ont fait plus de 300 morts en 2011, Ben Ali n'a jamais répondu de ses actes. Sa mort, d'ailleurs, est passée presque inaperçue. C'était le mois dernier, le 19 septembre. Mais l'effervescence politique actuelle de la Tunisie a fait passer la mort de ce vieux président, parti depuis plus de 8 ans du pouvoir, assez inaperçue. Mais revenons à l'année 2011. Plusieurs mois après la fuite de Ben Ali ont eu lieu les premières élections libres en Tunisie, en octobre. Les islamistes remportent 90 des 217 sièges de l'Assemblée nationale tunisienne. Le Congrès de la République, donc qui est un parti de gauche nationaliste et laïque, obtient 30 sièges. Et un autre parti de gauche, Etakatol, en obtient 21. Le 13 décembre 2011, Moncef Marzouki, le dirigeant du parti Congrès pour la République, devient président de la Tunisie. Le 26 janvier 2014, après des mois et des mois de négociations pour sortir de la crise, une constitution est enfin adoptée en Tunisie. Les Tunisiens ayant choisi un régime parlementaire, le président n'a pas la même fonction que le président français, par exemple. Il n'est pas le chef de l'exécutif, mais il doit s'assurer du respect de la constitution et il assure une certaine sécurité et stabilité au pays. Ce pays est d'ailleurs touché par un chômage de plus de 15% aujourd'hui, une inflation de 6,8%. Et ces difficultés économiques s'accumulent depuis 2011 et 2015, année particulièrement tragique qui a été ponctuée d'attentats revendiqués par l'État islamique et qui a eu de fortes conséquences sur l'économie, notamment via le tourisme.
Merci Océane pour cette remise en contexte qui va nous permettre de comprendre les enjeux des élections qui viennent d'avoir lieu. Alors pour les élections législatives, les Tunisiens étaient en train d'élire 217 députés et pour former une majorité, donc un gouvernement seul, il aurait fallu qu'un parti gagne 109 des sièges. Or cela n'a pas été le cas, le parti en tête, Ennahda, n'a pu obtenir que 52 d'entre eux. C'est un parti conservateur islamiste qui n'a été légalisé qu'en 2011, mais le nombre de ses sièges a pas mal baissé depuis. Ils se sont également vus retirer des sièges pour raison de propagande à la radio durant la campagne électorale. Il est malgré tout loin devant le deuxième parti, Kalb Tounes, qui n'a gagné que 38 des sièges. À tenir en compte que ce parti n'a été créé qu'en juin et que son leader, Nabil Karoui, s'est également présenté aux élections présidentielles. Il a aussi été inculpé pour blanchiment d'argent et emprisonné en août, ayant considéré cela comme un emprisonnement politique. Il a finalement été libéré le 9 octobre, donc après les élections législatives, mais avant les élections présidentielles, en demandant aussi un report du deuxième tour de celle-ci, afin de pouvoir faire campagne, mais ce qui n'a pas eu lieu. Revenons-en aux élections législatives. Le troisième parti est Atayar, considéré social-démocrate, suivi par Karama, un mouvement islamo-populiste, et ensuite par le parti Destourien Libre, lui anti-islamiste. Donc le Parlement tunisien semble très divisé, non seulement par de différents partis, mais aussi par ce qu'il représente. Il faut aussi tenir en compte que l'abstention a été énorme, le taux de participation ayant été à peine plus de 41%. Vis-à-vis des élections présidentielles, le 13 octobre, les Tunisiens et Tunisiennes se sont exprimés aux urnes pour le deuxième tour de celle-ci, qui a eu lieu entre Nabil Karoui, que j'ai mentionné un peu plus tôt, et Kais Saied. Celui-ci s'est présenté en tant qu'indépendant, et il est de profession universitaire et juriste spécialisé en droit constitutionnel. Le taux de participation a été un peu plus élevé que pour les élections législatives, se situant à 55%, et c'est finalement Kais Saied, l'indépendant, qui a été élu avec une quasi-majorité absolue à 72,71% des voix. Les jeunes de 18 à 25 ans ont voté à 90% pour lui, ce qui est assez incroyable. Il s'est présenté un peu comme anti-establishment, souhaitant redonner pouvoir au peuple, dont notamment aux jeunes, à travers la mise en place d'une démocratie participative. Après 2011 et le printemps arabe, les Tunisiens semblent en désaccord avec le système mis en place depuis, dont notamment avec la classe gouvernante, ce qui explique ses résultats. Cependant, il a également été accusé d'intégrisme dû à certaines de ses positions plus conservatrices, malgré l'absence de mention religieuse dans ses discours. Ainsi, il s'oppose à une égalité homme-femme en matière d'héritage et il est favorable à la peine de mort. D'un autre côté, il a annoncé ne pas reculer sur les avancées faites en matière de droits des femmes jusqu'à maintenant. N'ayant pas réellement de programme, il reste à voir concrètement comment ses promesses vont se matérialiser. Il semble malgré tout représenter une vague d'espoir pour la jeunesse tunisienne qui se bat depuis maintenant nombreuses années pour mettre en place le système qu'elle veut voir.
Alors, nous accueillons aujourd'hui pour notre grand dossier Anaïs Pellegrino. Bonjour Anaïs, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Alors Anaïs, tu as fait ton master de relations internationales en même temps que Carolina et moi en première année. Et toi, tu fais partie sur la francophonie et relations internationales. Et tu as travaillé notamment sur la question des femmes africaines et de leur émancipation. Et depuis, Anaïs a travaillé à l'UNICEF, sur laquelle elle s'est penchée sur l'égalité filles-garçons, donc dans l'enfance. Ben, je te laisse la parole, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important et extrêmement intéressant que nous n'avons pas encore pu aborder, c'est-à-dire les femmes et la guerre.
Donc la question des droits et des conditions des femmes fait l'actualité à tous les niveaux, donc que ce soit au niveau national avec les féminicides ou l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Et sur le plan international, il y a quelques jours, les États-Unis ont rejoint la coalition anti-avortement à l'ONU, composée de 19 pays, dont l'Arabie Saoudite et la Russie. Et le 7 octobre, la troisième commission de l'ONU a publié le bilan de l'égalité homme-femme en mettant l'accent sur les défis qui restent à surmonter. Par ailleurs, le 25e anniversaire de la déclaration de Beijing sur l'émancipation des femmes sera en septembre 2020. Donc, du coup, dans ce contexte bouillonnant sur les droits et les conditions des femmes, qu'en est-il, du coup, sous l'angle de la stratégie et de la défense ? Les femmes sont souvent perçues comme des victimes dans les conflits armés, notamment en raison des différentes violences dont elles font face. Mais elles sont de plus en plus présentes dans les armées nationales et peuvent aussi être actrices dans la guerre et dans la mise en place de la paix après un conflit. Donc les conflits et les instabilités politiques et sociales affectent considérablement les conditions et droits des femmes. Dans les situations de guerre, les femmes sont soumises à des viols, l'exploitation sexuelle, des grossesses forcées, la prostitution et le trafic.
On est d'accord que tu parles bien au présent, c'est pas quelque chose qui faisait partie du passé et qui n'existe plus aujourd'hui, c'est bien un problème actuel.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un problème qui a toujours existé et qui existe encore aujourd'hui. Donc, ça existe aussi de partout dans le monde, c'est pas uniquement dans une zone géographique spécifique. Par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu de nombreuses femmes qui ont été forcées de se prostituer. Donc, près de 50 000 femmes ont été utilisées dans les maisons closes du Troisième Reich et 20 000 en tant que femmes de réconfort pour les soldats japonais.
Femmes de réconfort, mais quelle expression.
Et en 1992, entre 20 000 et 50 000 femmes ont été sexuellement abusées dans la rue, dans des camps de viol ou centres de grossesse forcés par l'armée serbe. On estime que durant ce conflit, entre 30% et 50% des femmes en âge de procréer ont été violées. Les pays d'Afrique ne font pas non plus exception, comme la République centrafricaine entre 2001 et 2003, le Congo de 1998 à 2000, le Rwanda en 1994 ou la République démocratique du Congo depuis 1996. D'ailleurs, on estime qu'il y a plus de 20 000 viols par an en RDC.
C'est énorme.
Et plus récemment, on observe dans les conflits au Moyen-Orient que les femmes font aussi face à des violences sexuelles. Donc, par exemple, les femmes issues de la minorité yézidi sont offertes en mariage à des combattants de l'État islamique. Voilà, donc, la femme représente une arme stratégique en temps de guerre, car elle a une position symbolique dans les sociétés. Donc le corps de la femme, notamment sa sexualité et sa capacité de reproduction, est un grand enjeu pour l'obtention des terres et l'honneur. Donc en parlant du conflit religieux lors de la sécession entre l'Inde et le Pakistan, Urvashi Bhutalia, une historienne indienne, explique que l'honneur de la femme est intimement lié à celui de la nation. Qu'ainsi, la violation du corps de la femme signifie la violation de la nation. Et d'ailleurs, l'Observatoire international des violences sexuelles dans les conflits armés définit le viol comme une arme visant la destruction individuelle de la victime, mais aussi la destruction collective de la communauté. Le viol d'une femme vise la nation tout entière, les ancêtres et les générations futures. Ça s'apparente à une invasion du corps féminin par l'ennemi. De plus, le viol induit un risque de grossesse, de sida et d'autres maladies sexuellement transmissibles, ce qui rend l'agression durable dans le temps. Par contre, il est important de noter que les violences sexuelles peuvent aussi concerner les hommes. C'est beaucoup moins médiatisé, il y a encore un important tabou lié au concept de masculinité. Mais c'est aujourd'hui un sujet connu à cause du scandale autour de Guantanamo, mais très peu pris en considération.
Est-ce que tu peux nous parler très rapidement du scandale autour de Guantanamo ? Parce que j'avoue, je n'ai pas vraiment vu ça passer.
Alors c'est un scandale qui date il y a quand même déjà plusieurs années. Je ne saurais plus exactement quelle date, mais c'est des vidéos qui ont fuité. Des vidéos d'hommes qui étaient violés, harcelés, humiliés par les gardiens de Guantanamo.
Sympathique. Et donc, tu disais que le viol et les agressions sexuelles concernaient aussi les hommes. Et donc, est-ce que ça a une signification particulière sur les hommes, comme ça sur le corps des femmes, ou pas ?
Non, non, en fait, le viol des hommes va atteindre l'individu personnellement, sa masculinité personnelle, mais ça ne va pas atteindre la société parce qu'il n'y a pas... Le corps de l'homme n'a pas la même place que le corps de la femme dans la société. Puisque le viol de corps de la femme affecte à la fois l'individu personnellement et la reproduction de toute la communauté. L'anthropologue Véronique Naoum-Grab explique, et je cite, « En massacrant immédiatement l'ennemi masculin, on rend son sang infertile. En violant des femmes de cet ennemi, on occupe sa place dans l'avenir. » Donc le viol d'une femme, c'est véritablement une arme de guerre qui engendre douleur corporelle et domination politique et territoriale à travers la sexualité. Et ça, c'est notamment très présent dans les sociétés où l'honneur de la femme et de la communauté est basé sur la sexualité de la femme. Voilà, mais du coup, il faut aussi distinguer les viols utilisés comme armes de guerre et les viols commis en temps de guerre. Donc, souvent, le deuxième cas correspond à une situation de guerre où l'impunité n'existe pas et où la perception morale des actions menées contre l'ennemi est particulière puisque celui-ci est souvent dénué d'humanité aux yeux des soldats. Donc, ce qui ouvre la voie à de nombreux crimes et violences. Voilà, donc là, je vais me focaliser par exemple sur l'Est de la RDC pour vous donner un exemple sur le viol comme arme de guerre. Donc, dans ce pays-là, les institutions internationales, locales et humanitaires estiment qu'il y aurait plus d'une centaine de milliers de femmes violées depuis 1996. Ce sont des viols commis par des groupes armés contre la population civile, dont l'objectif est de détruire l'ennemi en violant parfois toutes les femmes, qu'elles soient âgées ou enfants, et de tous les villages dans une zone précise. Les jeunes filles sont aussi enlevées pour devenir des esclaves sexuelles dans les camps des milices. Dans l'est de la RDC, les viols ne sont pas uniquement une conséquence de la guerre, mais une stratégie à part entière, car les viols sont perpétrés seulement pendant les reprises de combat et sont exclusivement liés aux tensions politiques et ethniques. Donc, comme expliqué plus tôt, l'objectif est de briser les réseaux familiaux, de solidarité et d'empêcher la reproduction de la population afin de détruire la communauté visée. Donc, les enfants issus de ces viols sont souvent abandonnés ou tués. Et les mères sont exilées de la communauté. En ce qui concerne les jeunes filles, celles-ci n'étant plus vierges, ne peuvent plus se marier. Donc en RDC, la place de la femme dans la société est conditionnée par son rôle d'épouse et de mère. Ainsi, les femmes violées apportent le déshonneur, la honte sur les familles qui les répudient. Donc ce qui impacte tout fonctionnement et la reproduction de la société.
Ce qu'il est important de différencier, c'est bien, on parle bien aujourd'hui du viol comme une arme de guerre ou du viol en temps de guerre et pas du viol en soi. Faut bien que vous soyez conscient, vous qui écoutez, qu'on parle pas du viol de manière générale, mais bien de viol comme arme de guerre. Voilà, je me permets de souligner parce que ça paraît pas forcément si évident que ça, et quand on parle notamment en France des agressions sexuelles vécues par les femmes, on parle pas du tout de ce genre de problème.
Oui, c'est absolument pas la même chose. Je pense que même les procédés psychologiques sont totalement différents. Mais voilà, j'ai essayé de bien montrer la différence. Donc les viols comme crime, comme arme de guerre, avec une stratégie derrière, stratégie militaire, politique, territoriale, et les viols en temps de guerre, donc qui sont induits par l'effet d'impunité créé par le contexte de guerre. Voilà. Après, au niveau de la scène internationale, le viol a été reconnu comme un crime de guerre et comme un crime contre l'humanité depuis les conflits en ex-Yougoslavie et au Rwanda. En 1898, le statut de Rome de la Cour pénale internationale intègre le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution, les grossesses et stérilisations forcées aux violences sexuelles perpétrées dans les conflits armés.
Et que risquent les personnes qui sont reconnues coupables ? de viol ou d'agression sexuelle en temps de guerre ?
Eh bien, en fait, très peu de choses. Parce que même si c'est reconnu, il n'y a encore y a pas vraiment de dispositif au niveau international pour vraiment punir ces personnes-là. Donc elles sont condamnées, mais il n'y a pas vraiment de punition.
Et à ton avis, est-ce que c'est parce que c'est pas le problème principal de la communauté internationale et donc ben, c'est pas là qu'ils mettent des efforts ? Ou est-ce que c'est parce que les pays qui composent la communauté internationale et les ONG n'arrivent pas à se mettre d'accord et que du coup ça n'avance pas ?
Alors je pense que c'est plutôt parce que c'est pas quelque chose qui est de principal dans le conflit. Officiellement, c'est considéré comme un crime contre l'humanité, mais ça reste quand même effacé par rapport à toutes les violences qu'il y a pendant les conflits. Donc, la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU de 2000 représente un tournant dans les relations internationales puisque c'est la première résolution portant sur la place des femmes dans les conflits armés. Donc c'est une résolution importante car elle établit la nécessité d'intégrer plus de femmes dans les processus décisionnels et prend en compte les relations hommes-femmes dans les opérations de maintien de la paix et de reconstruction. Donc, ces mesures sont renforcées par la résolution 1820 de 2008 concernant les violences sexuelles perpétrées contre les femmes et les filles durant les conflits, la résolution 1888 de 2009 qui met en place un représentant particulier chargé de lutter contre les violences sexuelles dans les conflits armés, ainsi que la résolution 1960 de 2010 qui permet un recensement des parties pratiquant ces violences et de les sanctionner. Cependant, les violences sexuelles restent très peu punies, même celles perpétrées durant les opérations de maintien de paix de l'ONU.
D'ailleurs, il y a eu quelques scandales sur des casques bleus, des soldats de l'ONU qui, et je ne sais pas si je dois utiliser le présent de l'indicatif ou le conditionnel pour en parler, mais voilà, qui auraient commis ou qui ont commis des violences sexuelles à l'égard de femmes.
En effet, c'est arrivé et... D'ailleurs, donc Kofi Annan avait établi une politique de tolérance zéro à ce propos, mais le problème, c'est que les soldats, en fait, ont été renvoyés dans leur pays, mais n'ont pas été jugés pour ce qu'ils ont fait. Voilà, donc ça reste quand même très, très impuni.
Mais donc, avec toutes ces résolutions à l'ONU, les femmes peut-être évoluent dans l'esprit international un peu moins en tant que seules victimes de la guerre, mais aussi en tant qu'actrices potentiellement, parce que tu parlais de la place... dans les décisions, c'est peut-être le moment où on va commencer à parler de la femme guerrière potentiellement.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, depuis plusieurs années, on observe de nombreuses évolutions dans les armées nationales, dont la dernière en date concerne l'Arabie Saoudite, qui a officiellement annoncé l'ouverture de certains postes militaires aux femmes. Donc ça, c'était il y a quelques jours.
Donc, c'est plutôt impressionnant, je ne m'y attendais pas. Est-ce que tu sais quels sont ces postes
Alors, je ne pourrais pas dire exactement lesquels. Alors, je sais qu'elles n'ont pas accès à tous les postes, mais il faut qu'elles aient des compétences dans le domaine. Voilà. Et en France, depuis 2017, on a une femme qui est ministre des Armées. Mm-hmm. Et pour la première fois en 2018, une femme officier ouvre le défilé militaire du 14 juillet, symbolisant la féminisation de l'armée. Qu'il y a une volonté d'attirer plus de femmes dans l'engagement militaire qui peut se constater au quotidien à travers les campagnes de recrutement de l'armée qui régulièrement mettent en avant les figures de femmes.
Oui, et puis d'ailleurs, il y a de plus en plus de colloques et de conférences qui sont organisées par les armées, notamment à l'école militaire, par l'IRSEM, sur la place des femmes dans les armées. Donc il y a une vraie réflexion qui existe depuis plusieurs années déjà.
Oui, oui, et c'est une réelle volonté de les intégrer et de continuer à les intégrer parce que actuellement en France, les femmes dans l'armée représentent que 15,5%, dont 60,3% sont dans les services de santé, 22,2% dans l'armée de l'air, 14,5% dans la marine et 10,2% dans l'armée de terre.
Mauvais élève.
Mais du coup, historiquement, l'armée française a été ouverte aux femmes à travers le service de santé en 1938, où celles-ci ont le droit de s'engager en temps de guerre. Et à partir de 1972, les femmes ont la possibilité de rentrer dans tous les domaines de l'armée avec tout de même un quota de femmes à recruter jusqu'en 1998. Que le ministère français de la Défense a mis en place depuis plusieurs années un plan d'action national contenant 5 grands piliers qui sont l'intégration des femmes dans la gestion des conflits et dans les situations de post-conflit, la protection des femmes contre les violences et le maintien des droits des femmes lors des conflits, la lutte contre l'impunité, la sensibilisation sur les violences genrées, les droits des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que la promotion de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité à l'international, correspondant à la résolution 1325 évoquée plus tôt. Avec ces évolutions, la France est la quatrième armée la plus féminisée dans le monde après les États-Unis, qui sont à 18%, la Hongrie et Israël avec respectivement 20% et 33%. Néanmoins, le nombre de femmes dans l'armée française tend à stagner et n'est qu'à 15,5%. Ainsi, malgré le bon classement de la France au niveau mondial, il y a encore de nombreux efforts à fournir, d'où la mise en place par le gouvernement du plan mixité en mars 2019, dont l'objectif est de continuer à encourager la féminisation de l'armée et d'atteindre une augmentation de 10% de femmes d'ici 2025.
Après, j'imagine que, comme tu l'évoquais plus tôt, malgré la féminisation de l'armée, non seulement il reste des efforts à faire par rapport à la part des femmes, mais aussi par rapport à leur position et à comment elles évoluent dans la carrière.
En effet, les femmes continuent de faire face à de nombreux obstacles au sein de l'armée, déjà pour évoluer dans les postes, mais aussi elles font face à des discriminations et harcèlements sexuels et moraux qui sont basés sur la différence de genre. Donc ces violences s'ancrent dans un contexte général qui touche la société entière et ne correspond pas uniquement à l'armée. Donc c'est dans tous les domaines professionnels, qu'ils soient publics ou privés. Mais du coup, dans l'armée, par exemple, malgré les réglementations interdisant la prise en compte des congés de maternité dans la notation des militaires, les femmes font quand même face à des sanctions et culpabilisations pour ne pas avoir été aussi productives que les hommes pendant cette période. De plus, les cas de harcèlement et de violence qui sont dénoncés sont bien souvent étouffés de peur d'un procès médiatisé et de demandes de réparation démesurées. Même si la plupart de ces actions sont condamnées en interne, elles sont encore beaucoup pratiquées ou ignorées.
Oui, et puis même en regardant un peu plus largement sur l'évolution de la carrière, et là je m'adresse à ceux qui travaillent dans le monde militaire ou qui côtoient des militaires, combien de femmes générales connaissez-vous ? Peu, normalement, à moins que vous connaissiez toutes les femmes générales. D'ailleurs, je ne sais pas combien il y en a. Mais il y en a peu, et il y a peu de femmes qui peuvent justement monter jusqu'à ce point-là. Donc il commence à y en avoir pas mal, hein, des lieutenants-colonels, des colonels, mais ça reste assez, plus qu'anecdotique, mais ça reste réduit. Et le fait qu'il y ait peu de femmes au départ, et qu'elles soient interdites de certains postes, soit interdites par nature, soit interdites parce que juste elles passent pas les tests physiques, hein, ce qui peut arriver, ben ça prend en compte. Mais il y a peu de temps, finalement, il y a un peu moins de 2 ans, il me semble, on a ouvert nos premiers postes aux femmes dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc il y a la première patrouille mixte qui est partie. Alors il y avait à la fois peu de femmes sur cette patrouille, mais aussi parce qu'il y avait très peu de volontaires. On peut comprendre pourquoi on n'a pas spécialement envie de passer 3 mois coupés du monde dans un sous-marin, même si un sous-marin, c'est super chouette. Mais voilà, il y a toute une éducation à faire aussi auprès des jeunes qui veulent s'engager.
Oui, et d'ailleurs, pour les sous-marins, il y a eu tout un processus de féminisation des sous-marins pour que ce soit bien adapté aux besoins et pour la protection aussi des femmes.
Oui, notamment en termes de sanitaire, elles ne devaient pas partager les mêmes, donc ça a demandé une réorganisation intérieure en fait, du sous-marin. Qui était importante, donc ça veut dire que c'était pas un choix fait à la légère, et elle pouvait pas, pareil, partager les chambres avec des hommes.
Ouais, exactement. Au-delà de la féminisation des armées, il y a aussi... les femmes sont aussi très présentes dans les luttes armées. Donc ça reste plus illégal, moins officiel que les armées nationales, hein, mais elles sont quand même présentes. Et en étudiant les conflits armés en Irlande et au Pérou, Maritza Felices Luna, qui est une spécialiste en criminologie, fait le constat que l'engagement féminin se fait soit par vocation, soit en raison des circonstances ou sous la contrainte. Les engagements par vocation résultent d'une prise de conscience d'une inégalité ou d'une injustice induite par un système ou un gouvernement et qui implique une action directe, ne pouvant être autre que la lutte armée. Les femmes rejoignent aussi ces actions en raison des circonstances, sans que ce soit un choix politique évident. À travers des circonstances qui peuvent être aléatoires, des femmes peuvent se retrouver à rallier une équipe médicale ou fournir des équipements et du financement. Et enfin, le dernier engagement qui fut plus employé dans les campagnes péruviennes ne résulte pas d'une décision personnelle, mais de la soumission d'individus en situation de vulnérabilité et à des organismes en recherche d'effectifs. Donc l'engagement sous la contrainte est un choix de survie face à la menace de mort.
Et est-ce que cet auteur met en avant l'importance de la cellule familiale qui, si elle-même est engagée dans la lutte, engage à la fois les hommes et les femmes? Et en termes de rôle, est-ce que les femmes qui s'engagent ne sont reléguées qu'aux questions du care, en fait, nourrir les combattants, ce qui fait partie du rôle, ce qui fait partie du rôle général d'une organisation qui soit terroriste ou juste combattante. Mais est-ce qu'elles vont aussi porter potentiellement des bombes, les mettre quelque part, notamment dans le cadre de l'IRA? Je sais que les femmes sont... Donc l'IRA, c'est le groupe terroriste nord-irlandais. Je sais qu'elles sont particulièrement actives.
Oui, tout à fait. Il y a des femmes qui prennent réellement les armes. Elles ne sont pas uniquement dans les stations médicales, elles prennent les armes. Et d'ailleurs, à travers l'histoire et même actuellement avec l'IRA, les femmes en fait ont toujours pris les armes. Par exemple, en Europe, entre 1936 et 1939, pendant la guerre civile espagnole, le Parti communiste a repris les revendications féministes afin de recruter plus de femmes dans ses rangs. Donc là, c'est vrai que l'objectif de départ était qu'elle remplace les hommes qui étaient partis combattre et donc d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation. Mais très vite, elles ont aussi rejoint les hommes avec les armes et elles ont aussi montré une nouvelle image de femmes actives et miliciennes. Et il ne faut pas oublier aussi que c'était un contexte historique où elles se battaient pour leur émancipation économique, politique et sociale. Et donc aussi plus récemment, donc nous pouvons prendre l'exemple des combattantes kurdes en Irak et en Syrie qui ont pris les armes pour lutter contre l'État islamique. Cependant, la forte médiatisation de leur image, qui est extrêmement glamourisée, renforce les stéréotypes basés sur la contradiction entre femmes et violence et diminue l'importance du combat des soldats femmes. Ce phénomène s'est aisément vu avec la focalisation des médias occidentaux sur l'image d'une combattante kurde qui fut, jusqu'à sa mort, sur le champ de bataille, surnommée la Angelina Jolie kurde. Donc, nous pouvons aussi observer de nombreuses femmes dans la lutte armée palestinienne. Donc, les femmes sont présentes depuis plus longtemps en Palestine. Donc, déjà sous le mandat britannique, elles participaient activement aux grèves, manifestations, transportaient des armes, saboter aux côtés des groupes nationalistes palestiniens.
Est-ce que le fait d'utiliser une femme qui potentiellement provoque moins de méfiance de la part de l'adversaire peut être une stratégie des groupes de combattants? Et est-ce que les opposants en face ont commencé à penser à des... Voilà, par exemple, aujourd'hui, est-ce que contre l'État islamique, c'est un peu moins la question, mais... Par exemple, les combattantes kurdes, est-ce que la Turquie potentiellement a pensé à les soupçonner au même titre que les hommes, ou est-ce qu'elles ont toujours un espèce de statut de... pas intouchable, mais relativement moins dangereux?
Alors, je ne pense pas que c'était une stratégie des soldats d'inclure des femmes dans leur milice, parce que... Quand on regarde le parcours des femmes kurdes dans la lutte armée, elles se sont battues pour être intégrées. Du coup, ça vient vraiment des femmes qui ont eu cette volonté de prendre les armes. Et les hommes, après, je pense qu'aujourd'hui, les hommes utilisent l'image de ces femmes combattantes pour la communication. Puisqu'on en parle beaucoup des femmes combattantes kurdes. Et du coup, ça leur permet une exposition sur la scène internationale. Après, je ne saurais pas dire si, au niveau des armées ennemies, elles sont plus prises au sérieux. Je sais que, par exemple, pour la Turquie, c'est très critiqué. C'est vu comme une aberration pour la société. C'est une aberration pour la société. Et du coup, là, je parlais des Palestiniennes qui étaient engagées depuis déjà très longtemps dans le combat avec les hommes. Mais du coup, à partir de 2000, elles ont leur combat a évolué, enfin leur action dans le combat a évolué lors de la seconde intifada où elles deviennent des femmes kamikazes. Donc en 2002, Yasser Arafat appelle les femmes à libérer la Palestine et à se sacrifier. Donc le jour même du discours, une jeune Palestinienne perpétue un attentat suicide dans un centre commercial de Jérusalem qui sera revendiqué par une milice du Fatah. Donc, ces actions perpétrées par les femmes sont souvent analysées à travers une dimension psychologique et émotionnelle, ce qui n'est pas le cas pour les hommes kamikazes. Donc, comme le dit Elisabeth Marteux, qui est spécialiste du Moyen-Orient, on cherche systématiquement des tragédies personnelles dans les vecteurs de la violence politique des femmes. Et encore plus récemment, depuis 2015, nous pouvons observer une nouvelle évolution des pratiques armées des Palestiniennes. Donc, nombreuses sont arrêtées ou tuées en tentant de poignarder des Israéliens. Donc, ce sont des actions généralement perpétrées par des femmes qui sont jeunes, célibataires et qui ne sont pas dans le cadre d'un mouvement nationaliste. Donc, c'est fait de manière individuelle et improvisée. Donc, ces actes montrent que l'engagement des femmes dans la lutte armée est plus complexe et que celles-ci ont un libre arbitre dans la prise de décision de se sacrifier.
Il y a aussi, dans le sens de ce que tu dis, toute la question maintenant de la place des femmes, du rôle qu'ont eu les femmes avec Daesh, par exemple, et justement qu'il y a la difficulté à savoir qui a vraiment activement participé ou qui a été une victime. Est-ce que tu t'en sais un peu plus sur cette question-là ?
Alors, je sais que les femmes qui ont participé à l'État islamique, elles ont été quand même assez nombreuses. Après, c'est vrai qu'elles ont tendance, aujourd'hui, qu'on parle beaucoup de la fin de l'État islamique, on sait que c'est pas réellement la fin, mais ils ont quand même perdu pas mal de batailles. Mais de nombreuses femmes se font passer aussi pour des victimes, alors qu'elles ont joué un rôle important pour faire venir d'autres femmes dans le califat, pour inciter d'autres femmes à devenir kamikazes. Donc, les femmes ont quand même, oui, eu un rôle important à jouer.
Et est-ce que tu penses que, parce que ce sont des femmes, on va avoir plus tendance à les croire ou minimiser leur action, notamment, par exemple, pour leur retour, le retour des anciens de l'État islamique, ça pose une vraie question et un vrai problème en France, notamment concernant les femmes et les enfants. Est-ce que tu penses que, voilà, parce que ce sont des femmes, on va potentiellement plus leur pardonner ou plus croire à leur statut de victime ?
Et oui, justement, je pense que en fait, il y a encore l'idée qu'une femme ne peut pas faire partie d'un groupe armé ou de faire une action violente sans que ce soit induit par engendré par une manipulation mentale ou par des émotions qu'elle ne contrôle pas.
Donc il y a énormément de préjugés qui jouent dans notre vision des femmes combattantes, mais qui a un impact très clairement sur notre manière de gérer tout simplement, par exemple, des femmes terroristes, en leur pardonnant aussi facilement, ou en pensant que tout passe par l'émotion ou la manipulation, on oublie quelque chose en fait, très clairement, on oublie déjà le pourquoi de leur engagement, et ensuite on oublie que si c'est pas de la manipulation, elles pourraient recommencer, en fait, tout simplement, parce qu'elles sont convaincues.
Ouais. Oui, bah, du coup, oui, clairement, leur rôle en tant que soldat est diminué. Les femmes jouent aussi un rôle important dans les situations de post-conflit. Donc, le contexte de guerre a tendance à changer le rôle traditionnel des femmes, car elles sont amenées à mettre en place de nouvelles stratégies afin de survivre et reconstruire. Par exemple, en Albanie, les femmes ont mobilisé toutes les communautés autour d'un projet du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, qui consistait à recueillir les armes et soutenir les initiatives locales de développement. Les changements de rôle engendrés par les situations de conflit permettent aux femmes d'avoir une nouvelle place dans la société et de s'émanciper. Donc, il apparaît de plus en plus important pour les organisations internationales de promouvoir la participation des femmes au processus de mise en place et de maintien de la paix. Jusqu'à la résolution 1325 de l'ONU, les femmes n'étaient pas intégrées dans ces processus car il était majoritairement admis que leur place dans la société ne concernait que l'espace privé et la maternité. Et encore aujourd'hui, cette intégration nécessite des changements de mentalité profonds sur le rôle de la femme. Pour cela, les opérations de maintien de la paix et les interventions humanitaires mettent en place des politiques dites sexo-spécifiques. Ainsi, par exemple, l'Institut international de recherche et de formation des Nations Unies pour la promotion de la femme a créé des guides intitulés « Parvenir à l'égalité pour engendrer la paix », guide d'action et de planification sur les femmes, la paix et la sécurité, ou encore outils pour prévenir, combattre et réprimer la violence contre les femmes. Ainsi, le lien entre paix durable et émancipation des femmes est clairement établi.
Et c'est notamment en Afrique où il y a un vrai effort sur l'implication de la femme dans ce genre de projet.
Oui, exactement. Je peux vous parler plus particulièrement des pays francophones d'Afrique, parce que l'OIF a inclus depuis quelques années, non, un ou deux ans, la question des femmes, justement, dans le maintien de la paix. Donc, au Burundi, par exemple, en raison des violences entre ethnies en 1998, les partis politiques se sont réunis pour mettre en place la paix, mais sans qu'aucune femme ne soit présente. Les femmes Tutsi et Hutu ont donc créé des associations de femmes comme Réseau des femmes pour la paix et la non-violence, ou encore l'Association des femmes pour la paix, afin de se réunir et construire une stratégie de reconstruction du pays. Mais en fait, leur voix a été entendue uniquement parce que Nelson Mandela, qui s'occupait des pourparlers au Burundi à l'époque, a organisé une conférence de paix pour les femmes où toutes leurs demandes ont été entendues.
Donc ça veut dire qu'il y a une stratégie de la part des femmes d'avoir quelqu'un d'extrêmement connu pour pouvoir elles-mêmes être entendues.
Alors, je dirais pas que ça a été une stratégie de leur part. En tout cas, elles ont fait tout leur maximum pour être entendues et c'est lui qui a décidé de les écouter. Et donc, ça a été un combat extrêmement compliqué pour ces femmes burundaises parce que elles ont longtemps été invisibles et peu écoutées dans la sphère publique puisque ça ne correspondait pas à leur statut traditionnel. Et ça, c'est encore une vision qui est très répandue dans de nombreux pays encore. Et je pense qu'il faudra, par exemple, lorsque les conflits en Syrie et en Irak vont réellement se finir, il faudra faire attention à inclure les femmes dans le processus de paix.
Oui, parce que considérer que on n'a pas besoin des femmes dans le processus de paix ou qu'elles sont relayées assez basiquement à la maison, c'est oublier toute une partie de la société. C'est-à-dire que même dans les sociétés, je dirais, assez traditionnelles où la femme est cantonnée à un rôle d'épouse et de mère, elle participe en fait à la création de la société et à une certaine culture. Donc c'est vrai que les inclure dans le processus, ça permet à la fois l'émancipation de la femme, mais aussi peut-être la création d'une nouvelle culture, d'un nouveau type de culture qui permet à une société peut-être plus pacifiée que celle qui existait avant.
Oui, exactement. D'ailleurs, dans les revendications des femmes dans les processus de paix, elles demandent à être intégrées dans les sphères du travail, d'avoir plus de droits à l'école. Donc ça, c'est clairement, ça permet aussi de mettre en avant des volontés propres qu'elles ne pouvaient pas exprimer aussi avant.
Donc la guerre peut potentiellement être une opportunité, alors je sais que c'est assez horrible de dire ça comme ça, mais une opportunité pour les femmes à la fois de s'émanciper en prenant le travail des hommes qui sont partis combattre, en les rejoignant sur les zones de front, et ensuite en étant plus impliquées dans les processus de reconstruction de paix. Je sais que ça paraît assez affreux dit comme ça, mais...
Oui, c'est affreux de dire ça, mais c'est un peu ce qui s'est passé en fait. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qui s'est passé en Europe, c'est...
Les femmes ont bien obtenu le droit de vote grâce, en tout cas en France, grâce à leur implication dans la Seconde Guerre mondiale.
Voilà,
c'est-à-dire
exactement.
Que d'un conflit peut naître, d'un conflit même terrible, peut naître des nouveaux droits et des nouvelles mentalités grâce à l'implication des femmes.
Parce qu'on reconnaît du coup leur rôle dans la guerre, dans le rôle qui... Parce que du coup, pendant, en France, les femmes ont pris la place des hommes dans la société. Du coup, on a reconnu leur capacité à faire le travail des hommes.
Oui, et encore, c'était pas quelque chose qui a été évident, dans le sens où même après avoir vu ce que les femmes pouvaient faire, et ça dans plusieurs conflits, les femmes doivent encore se battre pour ne pas perdre les droits qu'elles avaient acquis et pour en gagner plus, en fait.
Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que du coup, n'importe quel droit que nous, femmes, avons acquis, il faut qu'on soit vigilante parce que ça peut nous être retiré à tout moment.
Oui, et d'ailleurs, on parle des femmes, on pourrait aussi parler des minorités dans leur ensemble. Minorité entendue là, non pas en termes de nombre, mais en termes de place politique.
Pour conclure, dans ce dossier, nous avons tenté de parler de la place des femmes dans la guerre. Donc, que ce soit en tant que victime des violences ou en tant qu'actrice de la guerre et dans les situations de post-conflit. Donc, nous nous sommes attardés sur le viol en temps de guerre et comme une arme de guerre, notamment dans le contexte de la RDC, afin de bien démontrer la complexité de ces actions et les enjeux stratégiques qui y sont liés. Au-delà des femmes victimes de la guerre, celles-ci sont aussi impliquées dans la guerre à travers la féminisation des armées et l'engagement des femmes dans certaines luttes armées, comme vous avez notamment pu le constater à travers les miliciennes espagnoles, les combattantes kurdes ainsi que les palestiniennes kamikazes.
Alors du coup, j'ai une question. Qu'est-ce qui reste à faire ? Qu'est-ce qui reste à faire, non pas pour le droit des femmes de manière générale, mais pour cette relation femme-guerre ? Qu'est-ce qui, selon toi, mérite encore qu'on y passe du temps ?
Alors, selon moi, ce qui est important, c'est qu'au niveau international comme national, on fasse plus d'efforts pour sanctionner le harcèlement et les violences dans les situations de guerre. Parce qu'on l'a reconnu, ça a été reconnu, c'est un bon début, mais il faut maintenant punir et...
D'accord, la sanction. Et en termes de féminisation des armées, alors toutes les armées ne fonctionnent pas de la même manière. Pour certains, il y a des quotas, pour d'autres, il y a des... Notamment comme en France, il y a un abaissement des niveaux physiques requis. Qu'est-ce que tu penses ? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait plus de femmes générales ? T'as peut-être pas la réponse, hein, mais...
Alors, j'ai pas forcément de réponse à ça. Pour moi, l'armée, c'est le même combat dans l'armée que dans les autres sphères professionnelles. C'est le plafond de verre. Le briser, trouver un moyen de le briser. Et par exemple, rien que pour les discriminations à l'embauche, moi, je pense qu'il y a un début à faire avec les congés de paternité, par exemple. Par exemple, dans le cas où je vous disais que les femmes on les culpabilisait pour leur congé maternité. Si les hommes avaient aussi un congé paternité plus ou moins aussi long, elles seraient moins sanctionnées.
J'avais une autre question. Pour ce qui est, on en a déjà un petit peu parlé de la question des femmes combattantes, la manière dont on les voit, la manière dont on les juge. Est-ce que c'est une question des mentalités qui doit changer dans la justice notamment ? Sur la culpabilisation ou la non-culpabilisation des femmes qui sont partie prenante des combats, qu'ils soient terroristes ou non. Ou est-ce qu'il y a une application des peines plus souple, et dans ce cas-là, qui serait à revoir, en fait ?
Alors après, en termes d'application des peines, je dois dire que je n'y connais pas énormément. J'ai l'impression que le cas de la Syrie, c'est un peu unique. On avance un peu dans le noir. On ne s'est jamais retrouvé dans un cas pareil. Je pense déjà que tout naturellement, les femmes djihadistes vont se positionner déjà en tant que victimes parce qu'elles savent aussi très bien que il y a encore une image de la femme qui est très d'une femme douce, qui ne peut pas porter une arme, qui ne peut pas avoir des actions violentes envers quelqu'un d'autre. Ça reste encore très très ancré dans l'image de ce que doit être une femme. Donc c'est ça qu'il faut changer, je pense, pour que si on veut établir des peines qui seraient les mêmes que pour les hommes, par exemple.
En tout cas, merci beaucoup Anaïs d'être venue nous parler de ce sujet et de l'avoir abordé sous tant d'angles différents, puisqu'en général, on se concentre que sur un seul aspect et c'est bien d'avoir une vue d'ensemble pour vraiment comprendre cette problématique.
Oui, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un peu hésité avant d'en parler et d'évoquer la question de la femme dans les relations internationales et dans la guerre, notamment parce que l'objectif de vous en parler, c'est pas un objectif qui soit féministe en soi, c'est simplement de mieux prendre en compte un des personnages de la guerre, mieux comprendre la guerre, l'avant-guerre et l'après-guerre. Donc on a pas mal hésité, j'espère que ça vous a plu quand même.
Donc merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se revoit bientôt pour notre 12e épisode qui fêtera nos 1 an de Léviathan. À bientôt.